Nous prenons l'épître aux Corinthiens, la lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. La lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. Nous allons parler de la logique de la résurrection. C'est vrai que déjà on a abordé le sujet de la résurrection autrefois, à deux ou trois reprises. Aujourd'hui, on va reparler sous un autre angle, même si tout est relié. Parfois, certaines notions que le Seigneur Jésus nous apporte, que ses apôtres nous apportent, elles sont bien saisies lorsque nous comparons avec l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la création, et le Nouveau Testament nous parle de la résurrection. Ce sont deux concepts qui sont voisins. Mais on comprend mieux le Seigneur lorsque on sait ce qui s'est passé avant et ce que le Seigneur apporte. Il est écrit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce est la vérité. Ça ne veut pas dire que la loi n'était pas la vérité, mais ça veut dire que toute la vérité est apportée par Jésus. Donc Jean 1, 17, c'est ce qui est écrit. La loi est venue par Moïse, mais toute la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Et Jésus nous amène le concept de la résurrection, qui existait déjà dans l'Ancien Testament, mais d'une manière voilée. Mais c'est le Nouveau Testament qui nous dévoile cela. Et un exemple, c'est Paul qui nous dit dans Hébreux 11 que lorsqu'Abraham sacrifiait Isaac, alors que ce n'est pas dit dans Genèse, mais dans Hébreux 11, Paul nous explique que pendant qu'Abraham sacrifiait Isaac, il s'attendait à la résurrection. Donc le Nouveau Testament nous explique des réalités cachées de l'Ancien Testament, mais qui sont maintenant clairement révélées. Révélées, ça veut dire dévoilées, montrées dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jean dit que la vérité vient par Jésus, l'éclairage, la lumière vient par lui. Et la notion de résurrection est très importante dans la marche chrétienne. Et nous lisons 1 Corinthiens 15, où Paul en parle. Il insiste là-dessus. Il dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon encore les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans de vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Voilà ce que notre frère nous explique concernant la résurrection. Alors, nous allons nous attarder à l'argument suivant, au verset 36. Il dit, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Alors, Paul, pour faire comprendre que la résurrection est une réalité, parce qu'il y avait un débat, il y avait une polémique à l'époque. Il y a des gens qui prétendaient que la résurrection a déjà eu lieu, Jésus est venu en esprit, comme certains aujourd'hui encore, je crois, les TJ, les témoins de Jéhovah croient cela, et d'autres encore, je crois, il paraît que Martin Luther King, le pasteur américain, il croyait aussi que la résurrection n'aura pas lieu. La résurrection, déjà, c'est le fait qu'on ait des bonnes pensées dans le cœur, donc quand Jésus-Christ vient en nous. Et beaucoup de gens sont dans cette logique-là de refus de la résurrection physique. Ça veut dire qu'un jour, nous serons transformés après notre mort et nous aurons le corps qui est enterré deviendra un corps puissant, brillant, plein de force, complètement sans péché et sans possibilité d'être détérioré d'une manière quelconque. Le corps céleste dont Paul parle. Il dit, mais d'ailleurs, nous ferons un séminaire là-dessus, sur le fait que Dieu parle à travers la nature. Mais il dit, mais vous ne remarquez pas que la résurrection existe déjà dans la nature. Parce que lorsque tu sèmes une graine, elle meurt, mais elle ne reste pas morte. Elle revient à la vie sous une autre forme. Il dit, pourquoi vous vous étonnez? Paul veut dire, mais pourquoi le concept de résurrection vous étonne-t-il? Pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous surprend alors que nous vivons ça quotidiennement déjà? Le fait qu'on sème une graine et que ça sort une autre chose après être passé par la mort, c'est déjà c'est ça la résurrection. Ça ne devrait pas vous étonner. C'est ce que nous expliquerons, que beaucoup de choses sont déjà dans la nature. Et lorsque nous lisons la Bible, Dieu prend beaucoup d'exemples liés à la nature. Il nous appelle des brebis, il y a plein de choses comme ça où la nature suffit pour comprendre la Bible. Parce que la résurrection, elle est déjà dans la nature. Il y a des corps qui meurent. Les grains, quand ils sont semés, ils meurent d'abord le grain et puis ensuite, il revient à la vie sous une forme nouvelle, pleine de force, pleine de vie, au point qu'après, il produit même d'autres choses. Et le Seigneur Jésus en parle aussi dans Jean 12, 24. Si le grain de blé n'est semé et ne meurt, il ne peut produire de fruits. Il faut qu'il meure, ensuite il ressuscite en un nouveau corps pour produire des fruits. Donc la résurrection, selon Paul et selon notre Seigneur, c'est tellement évident parce que c'est déjà on a des exemples dans la nature, des choses qui disparaissent et qui reviennent avec beaucoup plus d'éclat et de force et de vie. Et donc, nous ne devrions pas nous étonner de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons insister sur le fait que, puisque autrefois Dieu avait créé, aujourd'hui Dieu agit par la résurrection. Et nous pouvons lire aussi ce passage qui nous parle de la résurrection avec force dans Actes des Apôtres au chapitre 2. À partir du verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes, nous, témoins, tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc Pierre explique que nous avons la preuve que Dieu a fait Jésus Seigneur parce qu'il a ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Le Seigneur maintenant travaille dans la logique de la résurrection. Autrefois dans l'Ancien Testament, c'était la création qui était gérée d'une manière ou d'une autre, plus ou moins. Mais les gens n'avaient pas l'espérance de la résurrection. La résurrection était quelque chose de loin, de lointain, de caché. La preuve, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous n'entendez pas souvent parler de la résurrection. Mais quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est à tout moment cela. D'ailleurs, ce qui fait la différence entre Jésus et les prophètes qui l'ont précédé, ce n'est pas tant les miracles, c'est plus la résurrection. Parce que les gens, les lecteurs de la Bible qui ont déjà lu le livre de concernant Moïse, donc Exode, qui ont lu l'histoire d'Élisée, qui ont lu l'histoire d'Élie, vous vous rendrez compte que la plupart des miracles que Jésus a fait, Élie et Élisée avaient déjà fait ça. Hein. C'est étonnant quand on lit ça, la multiplication même des pains. Ils ont déjà fait ça. Commandé à la nature. Élie a commandé à la nature en disant qu'il pleuve, il a plu, qu'il pleuve pas, ça s'est arrêté. Donc vous vous rendrez compte que en matière de miracles, la plupart des miracles du Seigneur ont été déjà exécutés par ses prédécesseurs. D'ailleurs, c'est pourquoi quand on disait, Jésus demandait, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Certains ont dit Élie, parce qu'il y avait beaucoup de miracles que Jésus faisait qui ressemblaient aux miracles anciens qui avaient été déjà faits. Mais la grande différence entre Jésus et les Élie, les Élisée, les Moïse, c'est la résurrection. Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une résurrection comme une sorte d'enlèvement, on va au ciel. Non, il ressuscite avec un corps qui pouvait encore bouger sur la terre. Donc c'est son corps qui est revenu à la vie et qui pouvait marcher, travailler, manger, avancer, toucher les gens. C'est ce corps-là avec lequel il est ressuscité. Et ça, personne avant lui n'avait accédé à cela. Et aujourd'hui encore, personne après lui n'est parvenu à la résurrection. Donc c'est la grande différence. Mais puisque c'est la grande différence, nous devons attirer notre attention sur ce point-là. Si par rapport aux autres choses, Jésus ressemble à ses prédécesseurs, sauf aussi à la prédication de la grâce et de toute la vérité. Donc nous devons regarder la résurrection. Il y a beaucoup d'enseignements dans la résurrection. Le Seigneur veut qu'on considère la logique de la résurrection. Vous vous souvenez quand Jésus, on est venu le voir pour dire que Lazare était malade. Jésus n'était pas si loin. Mais il les a retardés dans quel but, bien-aimé? Il les a retardés dans le but qu'il meure. Donc le but, c'était qu'il meure. Il pouvait venir guérir, mais il a préféré qu'il meure afin qu'il ressuscite, parce qu'il voulait nous enseigner. Il veut nous enseigner sur la résurrection. Le Seigneur nous apporte une nouveauté. C'est la résurrection. Nous devons nous saisir de ça pour marcher chaque jour dans nos vies. Vous savez, autrefois, quand on avait commencé le ministère dans la région parisienne, notre logique, c'était la puissance. Chacun cherchait la puissance pour faire des délivrances, pour guérir les malades, pour prophétiser. On voulait la puissance. Et chacun cherchait une méthode pour prier, pour acquérir cette puissance ou se faire imposer les mains par quelqu'un qui avait déjà cette puissance-là. Mais bien aimé, avec le temps, je me suis rendu compte que ça, c'était la vieille forme de l'action. Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Il y a des temps où Dieu va nous amener à agir directement sur les choses, à nous battre et réaliser les choses. Mais la vraie action en profondeur du Seigneur, c'est toujours la mort et la résurrection. Et quand nous avons grandi en âge dans le travail de Dieu, nous avons compris, parce qu'autrefois, bien aimé, nous on pouvait aller de 14h à 20h à faire une prière de délivrance sur quelqu'un. Il fallait qu'on gagne, il fallait se battre. On était dans la logique de il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout, il faut obtenir les choses. On veut conquérir une ville, on fait les jeûnes et prières, on veut faire ceci. Donc, on était dans la logique suivante. Je fais ceci et j'ai tel résultat. On ne pouvait pas accepter la logique de la mort. Pour nous, on est puissant, on doit faire, on doit faire, on doit faire. Quelqu'un vient avec son problème. On ne cherchait même pas à savoir quelle était la vie de la personne avec Dieu, quel était le plan de Dieu aussi pour cette personne. Il fallait, en tant que pasteur, trouver la solution. Donc, c'est comme ça qu'on se configurait le travail du pasteur. Il faut qu'il trouve la solution parce qu'il est, il a l'onction. Et donc, c'est pourquoi nous cherchons toujours l'onction. Mais avec le temps, nous avons fini par comprendre que aucun homme n'est puissant. C'est Dieu qui agit dans les humains. Et l'action puissante de Dieu vient souvent par la mort et la résurrection. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Dieu n'avait pas encore agi parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore arrivée à leur comble. » Il fallait que la pourriture arrive dans cet endroit-là pour que Dieu commence à agir. L'iniquité n'était pas arrivée à son maximum. Il fallait que ça arrive à son maximum. Aujourd'hui, bien-aimé, avec le temps, nous sommes devenus beaucoup plus apaisés. C'est-à-dire que nous cherchons Dieu au lieu de chercher la puissance pour nous. Quand un problème est présenté, nous cherchons la face de Dieu, nous cherchons à ce que Dieu agisse. Et nous sommes conscients que Dieu est tout puissant parce qu'il a en lui la puissance de la résurrection. Nous sommes conscients aussi que Dieu, pour accéder à la résurrection, il peut faire passer par la mort aussi. Et nous vivons un siècle où les gens n'acceptent pas la mort. Les gens veulent tout, tout de suite. Et c'est ce que nous étions autrefois. Nous voulions tout, tout de suite. Il fallait que le problème d'un chrétien dans l'église soit réglé, sinon ça paraissait comme si l'église n'était pas puissante. Donc il fallait se battre et obtenir la chose. Mais bien sûr, on s'est fatigué. Hein. On n'a pas obtenu les choses. Il y a même des chrétiens à qui on a conseillé d'aller dans un meeting. Il y a un serviteur puissant. Va là-bas, peut-être que tu seras libéré. Il y a un serviteur en Allemagne, va là-bas. Mais ces chrétiens sont revenus encore nous voir parce qu'ils n'avaient pas obtenu la solution. C'est là qu'avec le temps, nous avions compris que ce n'était pas un homme puissant qui guérissait. C'était Dieu qui guérissait. C'était Dieu qui libérait. C'était Dieu qui sauvait. Et on a aussi compris que Dieu n'avait pas une seule façon de faire. Dieu pouvait agir directement, mais Dieu pouvait agir aussi par la puissance de la résurrection. Laisser la situation pourrir pour produire la résurrection. Dieu est tout puissant. Et son action la plus efficace, c'est la résurrection. Et ça nous a amené à entrer dans l'humilité. Mais ça nous a surtout amené à entrer dans la foi. Parce qu'aujourd'hui, on est en paix. On sait que Dieu ressuscitera l'affaire. Donc chacun de nos problèmes, chacune de nos situations peuvent être considérées comme des êtres vivants. Parfois, Dieu va agir directement, mais l'action la plus profonde et puissante de Dieu sera que la situation peut-être semble pourrir afin qu'il ressuscite la situation. Lisez l'Ancien Testament, c'est rempli d'exemples de ce genre-là. Daniel dans la fosse aux lions, c'est quoi, bien-aimé? C'est la mort. On t'introduit dans la fosse aux lions. Mais pourquoi Dieu n'a pas empêché juste qu'il n'entre pas dans la fosse aux lions? Parce que ça n'allait pas avoir le même impact. La puissance déployée n'aura pas les mêmes conséquences. Quand Dieu déploie la puissance de la résurrection, ça a des conséquences immenses. La preuve, c'est que quand Daniel sort de la fosse aux lions, automatiquement Darius prend la décision de tuer ses adversaires. Automatiquement Darius prend la décision d'honorer le Dieu de Daniel. Mais vous pensez que si Daniel, par des arguments, aussi puissant soit-il, venant du Saint-Esprit, avait convaincu Darius pour dire, mais Darius, je ne fais aucun mal, je ne fais que prier mon Dieu. Et que par la puissance du Saint-Esprit, Darius eut été convaincu et dise, bon, c'est vrai, après tout, tu as raison, même si j'ai signé, mais je ne vois pas le mal que tu as fait. Bon, reste en paix. Vous croyez que Darius allait se convertir? Non! Il fallait une grande puissance pour convertir Darius. Mais cette grande puissance ne vient pas dans le vide. Elle doit agir sur quelque chose qui est faible. Vous savez, on ne peut pas... comment dire? Il y a un proverbe en français qui dit « Au grand mot, les grands remèdes ». On ne peut pas parce qu'on a... On s'est blessé légèrement au doigt, nous amener aux urgences et qu'on nous reçoive immédiatement. Non. Quand on arrive avec de telles blessures, on dit, monsieur, on n'est pas là pour ça. Pour de telles choses, demandez à votre maman d'aller acheter le microchrome ou biceptile qu'il vous soigne. Vous ramenez avec une gratinée, vous voulez que des spécialistes vous consultent, ils vont refuser. On ne déploie pas des grands moyens pour des petites choses. Et donc, quand Dieu veut déployer ses grands moyens pour le salut d'une ville, pour ta vie, pour ta famille, mais il ne peut pas déployer ça si ton problème est léger. Il va parfois laisser les choses pourrir pour que la grande puissance ait une utilité, que ce soit logique qu'on envoie une telle puissance. Vous savez, l'église de Chine, elle était morte. Selon les païens, parce que le communisme du temps de Mao était tellement fort qu'ils avaient quadrillé toute la Chine. Mais le jour où, en 79, ils ont rouvert certains bâtiments religieux pour dire, bon, mais c'était des bâtiments infiltrés par les faux pasteurs, c'était des agents du Parti communiste. Mais ces bâtiments ont été remplis le même jour. Ça veut dire que pendant que les gens croyaient que l'église de Chine était morte, Dieu préparait la résurrection au point qu'aujourd'hui, l'église qui grandit le plus rapidement possible, c'est l'église de Chine. Dieu agit dans la logique de la mort et de la résurrection. Les difficultés que nous rencontrons sont comme des êtres vivants. Parfois, Dieu agit directement et nous nous battons, nous corrigeons les gens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. Voilà, nous corrigeons les gens, nous disons, mais non, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. On a des problèmes avec son mari, avec sa femme, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Mais, et parfois on dit, bon, je vais jeûner 2 jours. Mais on se rend compte que ça continue. Et parfois, ce que Dieu attend, c'est que tu supportes la personne comme dans une sorte de mort. Tu considères la situation comme étant perdue, afin que lui viennent avec la puissance de la résurrection. Mais quand tu commences toi-même à forcer, à dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, je vais jeûner, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire... Et Dieu te laisse faire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire ça, bien-aimé. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit qu'il faut être attentif à Dieu. Après avoir fait tout cela, jeûner, prier, parler, corriger les gens, bien-aimé, à un moment donné, il faut se dire, je laisse entre les mains de Dieu maintenant. Et beaucoup de gens ont du mal. Tu as un enfant à problème. Toujours crier sur l'enfant. Toujours parler. Redresser, parler. À un moment donné, il faut dire, bon, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Je crois à la puissance de la résurrection. J'accepte comme une forme de mort, mais ce n'est pas de la négligence, bien aimé, qu'on se comprenne très bien, ce n'est pas de la négligence. C'est-à-dire, après avoir fait ce qu'on pouvait, ben, acceptons quand la mort est là, car la mort n'est pas la fin. Voilà la bonne nouvelle que Jésus nous amène dans le Nouveau Testament. La mort n'est pas la fin. Dans l'Ancien Testament, la mort, c'était la fin. Dans le Nouveau Testament, la mort n'est plus la fin, parce qu'il y a ce qu'on appelle la résurrection. Et le diable va dire, c'est la fin. C'est ce que toi, tu vas entendre. C'est la fin. La situation est close. Mais sache aujourd'hui que ce n'est pas la fin. Il y a une notion nouvelle que nous avons maintenant, ça s'appelle la résurrection. C'est-à-dire quelque chose qui atteint la mort et Dieu ramène la vie à la chose. Une situation qui paraissait perdu totalement, Dieu va ressusciter la situation. Considérons toutes les difficultés. Nous avons des soucis. Hein. Nous prions pour nos familles, nous prions pour ceci, nous prions pour l'enfant, nous prions pour le parent, nous prions pour le mari, nous prions pour la femme. Ou nous sommes mécontents et nous voulons que ça change. Et souvent, nous avons agi parce qu'on se dit, oui, mais il faut que je jeûne, il faut que je prie, il faut que je parle, il faut que je le corrige. Mais après, il se dit chrétien, elle se dit chrétienne. Donc, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois lui parler. À un certain moment, Dieu veut qu'on comprenne que là, c'est la mort qu'il veut seulement. Il veut la mort et la résurrection va venir. C'est très important. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Certaines situations, nous devons les laisser mourir. Quand on a dit à Jésus, Lazare, c'est comment Lazare? Il est malade là. Jésus a dit, laissez. Quand on a dit à Jésus, quand il a vu le garçon, le jeune homme qui était aveugle de naissance, on a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est son père ou ses parents, ou bien ce sont ses grands-parents qui ont péché, ou bien lui-même. Jésus a dit, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Donc, le Seigneur veut nous dire par là que s'il avait des yeux, peut-être que Dieu l'aurait donné un jour du boulot. Mais est-ce que c'est ça la grande gloire de Dieu? Non, il fallait vraiment une situation mortelle. C'est-à-dire être aveugle. Être aveugle, c'est comme si on était mort. Et là, la puissance de la résurrection pouvait descendre. Et quand la puissance de la résurrection descend, ça bouleverse tout l'environnement. Parce que ça a bouleversé tout l'environnement. C'est la grande puissance. Mais elle ne peut pas venir pour les petits bobos. Et souvent, Dieu veut notre propre mort à nous, afin que nous ressuscitions ensemble avec la situation. L'Ancien Testament est rempli de ça. L'histoire d'Isaac, c'est la même histoire. Mais quand Isaac est sauvé, Abraham s'est attaché à Dieu fortement. C'est comme si son fils était ressuscité, quoi. Il avait perdu, il l'a retrouvé. L'attachement envers Dieu est devenu plus grand. Abraham est devenu le père de la foi. Ce n'est pas parce qu'il a cru qu'il pouvait avoir un enfant. C'est parce qu'il a laissé. Il s'est permis de vouloir tuer son fils. Mais pourquoi lui, il s'est permis de vouloir le faire? Parce qu'il disait, il se disait, selon Paul dans Hébreux 11, et nous croyons que c'est vrai, Dieu pouvait le ressusciter. C'est cela qui fait de lui le père de la foi. Il s'est livré à Dieu en disant, bon, puisque Dieu a promis que j'aurai une descendance, probablement il va ressusciter Isaac. Je m'en vais le tuer quand même. Ça, c'est la grandeur d'Abraham. Il a compris que Dieu était tout-puissant. La résurrection est liée à la notion de toute-puissance de Dieu. Et vous avez lu dans 1 Corinthiens 15, on a lu, c'est écrit que la mort, c'est le dernier ennemi. Vous imaginez que la mort sera combattue même après Satan. Satan sera déjà vaincu. Le péché, les autres choses seront déjà vaincues. Et c'est la mort qui sera le dernier ennemi. Alors, si Christ a vaincu le dernier ennemi par sa résurrection, donc nous pouvons être heureux. Il a vaincu le dernier ennemi. Donc les situations qui passent pour être mortelles, dans le sens où nous avons du mal à entrevoir la solution, nous avons l'impression que c'est clos, c'est fini, ça dure trop. Sachons, bien-aimés, que Jésus-Christ les a vaincus à la croix. C'est des situations comme la mort, mais Jésus les a vaincus à la croix. Et nous devons croire en la résurrection. Et nous devons arrêter parfois de lutter pour des situations que Dieu a dirigées vers la mort. Dieu a décidé que ça aille vers la mort, comme l'histoire de Lazare, afin que la résurrection soit fulgurante. Laissez faire. Au début, bien-aimés, nous tous, même étant pasteur, nous réagissions aux nouvelles que nous entendions, aux critiques que nous entendions. Mais en croissant en âge, dans la sagesse, dans la connaissance, on se dit, mais non, mais Dieu est tout puissant. Un jour, j'avais entendu tellement de choses, et puis une voix m'a dit, Dieu existe. C'est depuis ce jour-là que ma vie en tant que pasteur a changé dans la logique de tout ce qui concerne critique et persécution. La voix m'a dit, Dieu existe. C'est tout, hein? C'est cette phrase-là seulement. Dieu existe. C'est pour dire, Dieu voit tout ce qui se fait là. Dieu, il voit tout. Laisse faire. L'iniquité des Amoréens doit arriver à son comble. Laisse faire. J'existe. C'est cela. Et c'est ça la puissance de la résurrection. Et nous allons lire un texte, le texte que Pierre a sorti. Vous savez, il y a des textes que nous, on a lu dans l'Ancien Testament, on n'a pas très bien compris, mais nos aînés nous expliquent. Et le psaume 16, ça parle de la résurrection, mais quand tu lis à premier abord, tu ne vois pas. Et le frère Pierre explique ça dans l'Acte des Apôtres qu'on a lu au chapitre 2. Il dit que là où on dit, Jésus dit, le roi David dit, je voyais le Seigneur constamment à ma droite, il ne permettra pas que mon corps voie la corruption. Parce que si nous voulons expérimenter cette résurrection dans nos problèmes, dans les situations que nous rencontrons, nous avons une attitude adoptée. Et cette attitude est donnée dans le psaume 16. Psaume 16. Il y a malheureusement dans les milieux chrétiens des infatigables. Bon, espérons qu'un jour ils seront fatigués, hein, parce que le Seigneur dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils se battent tellement par eux-mêmes qu'ils ne viennent pas au Seigneur. C'est dit, bon, je vais jeûner pendant 6 mois. Parce que tout simplement, il ne veut pas dire, je laisse le Seigneur faire. Bon, je vais appeler un tel qui va prier pour moi. Toujours vouloir agir pour trouver la solution. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter et dire, mais j'ai fait, j'ai agi. Là, maintenant, je m'attends à la résurrection. Les gens vont dire, mais pasteur, tu es là pour nous communiquer la foi, pas pour nous dire de laisser faire. Mais c'est ça la foi. Croire que Dieu peut faire. Voilà. Nous voulons la puissance. Croire que nous pouvons faire. Je parlais à quelqu'un qui me disait, mais pour mon problème, quel jeûne je dois faire? J'ai dit, oh, pourquoi tu te précipites à savoir quel jeûne tu dois faire? Tu dois commencer par chercher Dieu pour ton problème. C'est ce que nous allons voir dans le psaume 16. Je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Psaume 16. Il y a des psaumes qu'on appelle psaumes messianiques, c'est-à-dire que ça explique Jésus avant le temps. Et le psaume 16 en fait partie. Alors, qu'est-ce qui est dit? Verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alors, notre frère Pierre, puisqu'on a déjà lu ce texte-là dans Actes des Apôtres 2 tout à l'heure, lui dit que c'est le Seigneur qui parle, le Seigneur Jésus qui parle. J'ai constamment sous mes yeux l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Voilà ce que ce psaume dit. Je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Il était toujours là. Alors, si nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection, nous devons avoir les yeux fixés toujours sur le Seigneur. Pas fixés sur nos moyens à nous, même si ces moyens-là apparemment sont spirituels. Aujourd'hui, je vois sur Internet, les chrétiens se permettent de maudire n'importe qui. Voilà, dans tel pays, il y a telle chose. Alors, nous maudissons tel président. Mais bien aimé, non. Ça, c'est le manque de foi en Dieu. Et parce qu'on n'a plus de moyens, alors on maudit les gens. On a prié, on a jeûné, rien ne s'est passé. Alors on maudit, on commence à maudire. Non, le Seigneur a dit, bénissez, ne maudissez pas. Le Seigneur existe. Et David dit, je voyais le Seigneur constamment à ma droite. Alors comment expérimenter ça, bien aimé? Avoir le Seigneur constamment à notre droite. Nous devons revenir et chercher le Seigneur au lieu de chercher notre problème. au lieu d'être de prendre un microscope, regarder tout ce qui est caché dans notre problème, tout ce qui est notre problème, tout ce qui est notre difficulté, nous devons au contraire ouvrir grand les yeux et contempler le Seigneur. Il faut qu'il soit constamment à notre droite. C'est comme ça que notre corps, c'est-à-dire notre situation, on peut dire ça repose en sécurité. Dieu s'en occupe parce que nous voyons le Seigneur, il est toujours là. Le Seigneur, David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien parce qu'il est là avec moi. Nous avons besoin de contempler le Seigneur. Mais comment? En lui parlant. Vous savez, le chrétien doit beaucoup plus prier que... Je parle de la vraie prière parce que souvent, il y a confusion. Il n'y a pas de la vraie prière qui consiste à discuter et à parler à Dieu en fonction de ce qui est dit de lui dans la Bible. Je ne parle pas de la prière qui devient comme une sorte de magie où je vais prier parce que je vais réciter tel verset, je vais faire telle chose. Non, c'est la prière qui consiste à se connecter à Dieu et l'Esprit là te conduit maintenant. S'il faut décréter des choses, déclarer des choses, tu le déclares par l'Esprit et non pas comme une sorte de moyen fétichique pour arriver à la solution. Non. C'est d'abord rencontrer Dieu. Je voyais le Seigneur constamment à ma droite. C'est ça qui a amené la résurrection. Parce que le Seigneur était constamment à la droite. Et c'est ainsi que mon corps ne connaîtra pas la corruption. Donc la résurrection du Seigneur Jésus est due au fait qu'il était toujours en connexion avec son Père. Alors nous, aujourd'hui, nous voulons voir des résurrections dans tout ce que nous réclamons au Seigneur. Premièrement, nous devons accepter le système de la mort. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Si on s'entête à refuser la mort, à nous battre, à vouloir obtenir des solutions humaines, parfois l'enfant a juste besoin de beaucoup d'attention. On se dit, ah ben non, il ne comprend pas, je prends un professeur, j'ai de l'argent, je prends un professeur. J'ai de l'argent, je rajoute encore un autre professeur, mais cette fois-ci de français. Donc, c'est-à-dire qu'on veut trouver des solutions soi-même. Et Dieu dit, mais non, pourquoi tu ne me cherches pas? Parfois, acceptons des situations comme des pertes. On dit, bon, moi j'ai échoué, j'ai perdu, maintenant je m'attends à la résurrection. Je veux lire un verset pour que vous ne pensiez pas que j'invente les choses. 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Il y a des choses qu'on appelle maturité. Voilà, c'est lié à la maturité. Et on ne peut pas être chrétien, rester bébé spirituel. Nous sommes en train de parler des choses liées à la maturité. Et nous citons des frères qui nous ont précédés et qui ont connu les mêmes expériences, mais qui ont gagné en maturité. Et nous n'avons pas besoin de vivre exactement les mêmes expériences que nous devons profiter de leur expérience. 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Écoutez ce que notre frère dit. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Voilà ce que le frère Paul dit. Vous n'allez pas dire Paul n'est pas Dieu, mais quand même, on sait bien qu'il avait la foi. On ne va pas dire que Paul n'avait pas la foi, mais on est des humains. Il y a des moments, il faut dire, bon, là, c'est bon pour moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas une honte, puisque le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Paul dit, on n'avait plus même l'espoir de conserver la vie. La situation était tellement grave, parce que d'habitude, quand il y a des situations difficiles, on dit, bon, je vais jeûner, je vais prier, je vais faire ceci, je vais, voilà. On va envoyer les textos pour la prière. Là, à un moment, après avoir tout fait, le monsieur était découragé totalement. Alors, il ne priait même plus pour ce qu'il a. Il était conscient que c'était fini. Bon, il ne me reste plus que à mourir. Nous désespérions même de conserver la vie. Mais écoutons le verset 9. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort. Voilà. Donc, Paul a préféré considérer que bon, c'est bon. C'est mort la situation. C'est certain, là c'est mort. Voilà. Lisons la suite. Afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. nous plaçons trop notre confiance en nous-mêmes. Et ce qui nous amène à quoi? À attaquer les gens. Puisqu'on se dit, mais non, mais moi je prie, je lui ai parlé, il n'a pas changé, j'ai fait ceci, la situation n'a pas changé. Donc, alors, forcément, il est mauvais, elle est mauvaise. Les gens sont mauvais. Le monde a changé. Mais Dieu dit non, arrêtez. Psaume 46. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. J'existe. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez vos situations de mort. Paul dit, c'est bon. On a considéré que c'était certain, la situation était finie et morte. Mais cependant, nous espérions que Dieu ressusciterait la situation. Voilà. Donc, en ce qui concerne nos moyens personnels de prière, de jeûne, de remémoration des versets bibliques, ça n'a pas marché. La situation reste finie. Mais nous gardions la foi que même mort, Dieu ressuscitera nos vies. Amen. Alors, c'est ce que nous devons discerner. Je ne dis pas qu'on ne doit plus lutter. Je dis tout simplement, dans notre façon d'agir dans les problèmes de la vie, dans les situations de la vie, nous devons intégrer la puissance de la résurrection. Il y a certaines situations qu'on doit laisser parfois pourrir, pas dans le sens de l'inaction, mais dans le sens qu'on ne sait plus quoi faire, mais on compte sur la résurrection. Parce que Dieu a la puissance de la résurrection. Il peut ressusciter quelque chose de mort. Amen. Il y a des gens pour changer, il faut qu'ils atteignent le fond. Et nous, on va insister qu'ils changent avant. Mais Dieu sait bien que s'ils changent avant, ça sera insuffisant. Parce que comme ils n'ont pas atteint le fond, dans leur changement, ils vont commencer à dire « Ah, mais je n'ai pas goûté à la cocaïne. Là, j'étais à peine au cannabis. Je suis devenu chrétien, mais j'aurais dû quand même, avant de me convertir, savoir c'est quoi la cocaïne. » Mais nous, on prie, on voit la personne passer de la cigarette au cannabis. On dit « Mais Dieu ne m'écoute pas. » On appelle les gens du monde entier, les amis du monde entier, « Priez pour mon fils. » Mais passe du cannabis à la cocaïne. Mais Dieu ne m'écoute pas. Et on commence à condamner. Je change d'église. On commence à condamner le fils. Il est ensorcelé. On commence à condamner les gens qui ne nous soutiennent pas. Puisqu'on est dans nos moyens. Et Paul dit, à un certain moment, nous avons considéré les choses comme finies. Certain l'arrêt de mort. De sorte que nous nous oublions comme source de solution et que nous nous concentrions sur Dieu qui peut même ressusciter ce qui est mort. Amen. C'est ce que notre frère nous donne comme conseil. D'abord, acceptez parfois que les situations pourrissent. Acceptez parfois que ça nous échappe. Non pas que nous sommes inactifs, mais nous sommes arrivés à nos limites. C'est un appel à reconnaître ses limites. Ce n'est pas un appel à ne pas agir. Il faut qu'on se comprenne. C'est un appel à reconnaître que j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, s'il faut que ça pourrisse, c'est entre les mains de Dieu. Voilà. Dieu protégera mon fils. Dieu s'occupera de lui là où il est. Dieu protégera ma fille. Il est parti dans une secte. Pourtant, il est passé par l'école du dimanche. Dieu s'occupera. On a fait ce qu'il fallait. On l'a amené à l'école du dimanche. On lui a parlé. On a fait. Maintenant, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu pour ma femme. Je compte sur Dieu pour mon mari. Mais on n'entre pas dans une forme de logique charnelle d'action qui va finalement nous épuiser. Nous allons entrer dans la chair, nous allons nous éloigner de Dieu et nous allons faire traîner la situation puisque point de solution. Mais Paul a dit, nous avons considéré certains notre arrêt de mort. Et voyez la suite est extraordinaire. Il dit au verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Amen. C'est lui qui nous a délivrés. Quand on a compris que c'était fini, la résurrection est venue à notre secours. Voilà. Mais pour accéder à cette résurrection, premièrement, passer par la mort. Deuxièmement, avoir le Seigneur constamment devant nous, à travers la prière. Pas trop parler, mais beaucoup plus prier. Pas trop accuser les gens, beaucoup plus prier. Il y en a qui passent leur temps à chasser les démons, à tort et à travers. Chasser les sorcières. Un jour, je dis à quelqu'un, mais toi, tu ne penses pas que Dieu voit ces démons-là, ces sorciers. Maintenant, si lui-même Dieu ne fait rien, alors qu'il y a, il y a les francs-maçons, il y a le... Voilà. Même en Israël, sur un rond-point, il y a le triangle, la pyramide des francs-maçons. J'étais fatigué quand j'ai vu ça. Pyramide, et c'est écrit clairement les trucs de francs-maçons dessus. Le mot franc-maçon, c'est eux qui ont bâti. C'est écrit. Alors, toi, tu vas te lever la nuit, tu viens là au rond-point. Allez, pyramide tombe. Mais non, bien-aimé. Moi, je me dis, mais non. Si c'est Dieu qui t'envoie, d'accord. Mais si c'est juste, tu te dis, ah, mais je suis intercesseur à l'église, tout ça. Mais non. Tu vas recevoir un coup. Ah, mais comment j'ai reçu un coup? Mais c'est parce que tu es parti par la chair. Parce que dis-toi que si toi tu es choqué, Dieu aussi, Dieu est plus choqué que toi. Mais Dieu laisse faire. Là, c'est pourquoi il ne faut pas maudire les gens. Parce que Dieu voit bien qu'ils sont mauvais. Parce que pourquoi toi tu veux les maudire? Tu es plus bon que Dieu? Non. Moi, ma logique est simple. Si Dieu laisse les mauvais, ce n'est pas moi qui vais les embêter. Je ne les embête que quand c'est Dieu qui m'autorise à le faire. C'est tout. Ce n'est pas moi qui suis le justicier, le juge. Voilà. Dieu lui-même, il voit tout ce qui se passe. Il n'a qu'à agir. S'il lui laisse faire, ce n'est pas moi qui veux me substituer et prendre sa place. Soyons calmes. Parfois, Dieu veut juste la mort afin qu'il produise la résurrection. Continuons à mener notre vie en ayant le Seigneur constamment à notre droite. Avec des vraies prières où tu dis, Seigneur, je crois que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Je crois que tu es bon. C'est pourquoi la louange est importante. L'adoration est importante. Nous rappelons à Dieu que la chose est réglée parce que toi, tu es grand, tu es tout-puissant. Pendant que nous parlons au Seigneur, le Seigneur nous révèle encore sa grandeur. Constamment à la droite, c'est avoir la Bible devant soi. Vous savez, beaucoup de choses. Je parlais à quelqu'un qui me dit, mais je lui ai pardonné, pasteur. Mais il refait la même chose. Mais il faut encore pardonner. Mais il a encore refait la même chose. Il dit, mais la Bible dit qu'il faut pardonner 70 fois 7 fois. Ah, c'est vrai. Donc quand on n'a pas la parole constamment à la droite, on va croire que on va faire des choses charnellement, mais on a oublié. Mais pasteur, je l'ai pardonné. Mais la personne avait oublié que le Seigneur demande qu'on pardonne à l'infini. Parce que peut-être qu'elle ne lisait pas la Bible à ce passage en ce moment-là. C'est pourquoi nous devons voir la Bible constamment. Parce que certains de nos actes sont des actes de fatigue. Un jour, je disais à une personne, le Seigneur peut me montrer que quelqu'un est déjà touché et je ne fais plus d'efforts charnels sur la personne. J'ai prêché, j'ai vu les yeux de la personne, je sais qu'il va se convertir. Même quand les gens vont venir avec les mauvais rapports, je sais que ce que Dieu m'a montré va s'accomplir. La personne se convertira. Et donc, je ne m'embête plus à vouloir forcer la personne, crier sur la personne. J'ai vu dans ses yeux que c'était réglé. C'est tout, bien-aimé. Jésus a dit aux gens, laissez tomber. Lazare, laissez-le mourir. Je vais le réveiller. Ah, mais il est malade, viens. Et même quand il arrive, on dit, mais si tu étais venu pendant qu'il était malade, tu viens pendant qu'il est mort. Il dit, mais oui, mais je suis la résurrection et la vie. C'est là qu'il cite cette phrase-là, ce verset-là. Je suis la résurrection et la vie. Alors, considérons que tout ce qui paraît mort, comme événement, situation autour de nous, Dieu va ressusciter. Mais ça passe par le fait d'accepter cette mort, de ne pas continuer à se battre. Parce que quelqu'un qui se bat toujours, il est vivant, il est fort. Parfois, il faut laisser entre les mains de Dieu. Et deuxièmement, il faut avoir le Seigneur constamment à notre droite à travers la louange, la prière. Constamment à notre droite à travers la lecture de la parole. Dieu va nous éclairer. On va se rendre compte que nos situations en réalité existaient déjà dans la Bible. Ce n'est pas de nouveau. Laissons Dieu faire. À chaque fois que nous agissons par nous-mêmes, nous ne faisons qu'allonger la situation. Nous ne faisons que perdre du temps. Nous nous épuisons pour rien du tout. Il y a des situations, nous avons besoin de voir la résurrection. Ainsi, nous verrons réellement la gloire de Dieu. Et parfois, ça peut traîner, oui. Parce qu'il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Il faut que la situation pourrisse jusqu'à la mort. On a dit à Jésus, mais il sent déjà. Jésus dit, oui, mais c'était ça que je voulais. Qu'il meure vraiment, vraiment. Afin que la puissance de la résurrection vienne. Et beaucoup de gens refusent cette attente-là de la résurrection. Ils refusent. Ils veulent agir pour produire. Il y a des gens qui ne mangent même plus. Presque une année, ils ne mangent pas parce qu'ils jeûnent pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Bien-aimés. Et 3 ans après, la chose n'est pas toujours résolue. Il y a des gens qui pensent que des formules, comme nous autrefois, on avait lu des livres pour un tel démon, il faut citer telle phrase. Pour un tel, il y a des gens même qui allaient loin jusqu'à dire que si c'est la sirène des eaux, il faut couper sa queue. C'est rigolo tout ça, bien-aimé. Allez, tu coupes la queue de la sirène des eaux. Mais la sirène des eaux est toujours là. Peut-être le problème de la personne est orgueilleuse. C'est pourquoi les démons s'accrochent à lui, à elle. Donc, au lieu de s'attendre à Dieu, pour que Dieu te montre cela, et tu dises, mon frère, ma soeur, c'est ton problème est un problème d'orgueil. Les démons s'accrochent à cause de ça. Mais non, on a lu des livres avec des méthodes. Pour la schizophrénie, voilà comment il faut dire. Il faut parler. Bien-aimé, je ne dis pas que Dieu ne délivre pas par la parole, mais nos paroles doivent être inspirées par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la Bible constamment à notre droite. Constamment. Un jour, j'avais lu un frère qui avait passé des années dans ce qu'on a appelé à l'époque, dans la région parisienne, le ministère de la délivrance. Il a passé des années, il a dit, lui c'était toute la journée. Nous, on a fait des délivrances à longueur de temps, mais lui, c'était plus. Il a dit, Dieu l'a libéré par le passage de 2 Timothée. On dit que il faut prier que le Seigneur amène la personne à la repentance. Il a dit, à partir de ce jour-là, les délivrances se font au rythme de Dieu, mais dans l'harmonie avec les Écritures et dans l'efficacité, les gens sont vraiment libérés. Avant, nous étions dans une logique de puissance personnelle. Il fallait qu'on obtienne des résultats par nous-mêmes. Maintenant, on fait confiance en Dieu. Dieu peut laisser les situations pourrir pour sa résurrection. Dieu va agir. Vous savez, c'est ça la résurrection, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Paul nous donne l'explication. Il dit, nous avons considéré notre arrêt de mort certain afin que nous puissions mettre notre confiance non en notre puissance mais en la puissance de Dieu. C'est ça la résurrection. Tu ne fais pas confiance en toi mais en Dieu. Il y a des gens qui veulent obtenir des résultats en faisant des cadeaux aux enfants, en faisant ceci pour amener les enfants à les écouter. Tout ce... Non, bien-aimés, nous devons croire en la puissance de la résurrection et tout cela s'obtient à travers la prière. La confiance à la parole. Quand je dis prière, j'aime toujours préciser la vraie prière qui consiste à faire confiance en Dieu et à lui parler clairement, à lui citer son problème clairement et non pas la prière fétichique qui consiste à dire des choses en croyant que ce sont ces phrases-là en elles-mêmes qui ont de la puissance. Non, c'est Dieu qui est tout puissant, qui agit à travers ce que nous disons. Donc nous devons chercher sa face, qu'il soit constamment à notre droite. Il va nous parler, il va nous diriger dans la façon de faire et nous obtiendrons de vrais résultats efficaces et éternel, plutôt que les résultats apparents qu'on peut obtenir en criant, en faisant soi-même les choses. Acceptons la logique de la résurrection. Tu es un évangéliste, accepte la logique de la résurrection. Je vous ai parlé de Jackie Poulinger, 2 ans, aucune conversion. Aucune. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Aucune conversion. Et quand elle s'est reposée dans le Seigneur, la résurrection est venue. Les conversions sont venues en grande quantité. Mais tu vas lire certains livres qui vont te dire, ben voilà, telle chose il faut faire pour obtenir des résultats, telle chose. Non, moi je vous dis, il faut faire confiance en Dieu, être prêt à expérimenter la résurrection à travers la mort, à travers la prière, à travers la constance du Seigneur à notre droite. C'est comme ça que le Seigneur agit. Et quand la résurrection vient, nous sommes surpris. Soyez des hommes de paix, des hommes de prière, des hommes tranquilles. Quand Jésus-Christ est ressuscité, première phrase aux apôtres, que la paix soit avec vous. Soyez en paix. Ne vous tracassez pas. Qui n'est plus en paix, comme j'écoutais un chant hier? Le monsieur dit, depuis que Jésus est ressuscité, le désordre est entré dans le camp de Satan. Qui n'est pas en paix? C'est l'autre camp qui n'est pas en paix. C'est tout. C'est l'autre camp qui n'est pas en paix. Alors toi, sois en paix. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Que la paix soit avec vous. C'est ce que le Seigneur dit aux disciples. Et aujourd'hui, il nous dit que la paix soit avec nous. Exposons nos problèmes tranquillement au Seigneur. Le Saint-Esprit nous conduira s'il faut jeûner. Il nous conduira s'il faut prier la nuit. Il nous conduira. Mais ce qui est sûr, Jésus-Christ a vaincu tout cela à la croix et il est ressuscité pour témoigner de ça. Faisons confiance en Dieu. Il a dit, vous prendrez des breuvages mortels et rien ne vous atteindra. Parce qu'il a vaincu la mort. Toute situation est comme un être vivant qui va connaître la résurrection si nous faisons confiance en Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous te confions nos cœurs, notre entendement. Seigneur, nous avions autrefois cru qu'il y avait des méthodes, il y avait des façons de faire, il y avait des styles. On a cherché la puissance par nous-mêmes. Mais Seigneur, tu nous apprends, comme notre frère Paul, que la résurrection est une réalité. Mais il n'y a pas de résurrection sans la mort. Aide-nous, dans le discernement du Saint-Esprit, à accepter qu'il y ait une forme de mort dans certaines situations, afin que nous comptions non pas sur nous-mêmes, sur nos prières, sur ceci ou cela, mais nous comptions sur toi. C'est ce que notre frère Paul nous dit dans 2 Corinthiens 1, au verset 8 à 10. De sorte qu'il s'est reposé sur toi. Et il est écrit que tu l'as délivré et tu le délivreras encore. Tu nous délivreras encore. Merci Seigneur pour ta résurrection qui nous donne la paix. Et aujourd'hui, nous écoutons ton instruction qui nous dit que la paix soit avec vous. Et nous acceptons cette instruction et nous te confions toute situation dans nos vies qui ressemblerait à la mort. Un problème de péché qui nous retient, qui nous bloque, nous te confions cela. Le problème de conversion des membres de la famille, nous te confions cela. Des problèmes de malédiction familiale, nous te confions cela, Seigneur. Le salut de la Normandie, nous te confions cela. Nous croyons qu'il y a un temps pour tout. Le temps de la résurrection viendra. Nous ne sommes pas effrayés par la mort parce que nous avons connu la résurrection par toi, Seigneur. Le problème de la conversion des autorités politiques, administratives, économiques du monde, des grandes autorités, nous te confions cela. Nous verrons ta gloire. Conversion des imams, des rabbins, conversion des moines bouddhistes. Seigneur, nous te faisons confiance. Rien n'est impossible à toi. Nous ne voulons pas nous battre par l'intelligence humaine, même si nous employons des outils spirituels qu'on peut appeler prière, jeûne ou autre. Aide-nous, Seigneur, à nous battre dans ta résurrection et à te faire confiance. Agis, Seigneur. Relève ton Église. Donne-nous ta paix, ta joie, ta puissance et que notre foi soit tellement forte que des résurrections se produisent en grande quantité, parce que nous aurions compté sur toi.